oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le mouvement de la paix, enfin des représentants du mouvement de la paix, Edith Boulanger et Yves-Jean Gallas. Alors, nous allons parler, bien sûr, dans cette émission de plusieurs choses. Hein, la loi de programmation militaire, d'abord, qui est importante. On va parler aussi de l'escalade militaire en Ukraine. Et puis, on va aussi annoncer le rassemblement qui aura lieu le 24 et 25. Hein. Ah, c'est le 25. Alors bon, le 25 février... J'avais rejeté en avance, moi, si j'y allais, là.
Il y a les deux dates.
Donc, à Paris, pour les Journées internationales d'action contre les guerres. Alors, bon, ben, d'abord, bonjour Edith Boulanger. Bonjour Yves-Jean Gallas. Alors, vous êtes membre du Bureau national du Mouvement de la paix.
Oui.
Et j'ai su qu'il y avait 26 membres. Vous êtes donc assez nombreux. Parlez un petit peu fort, si... approchez-vous.
C'est le nouveau bureau qui a été élu lors du congrès de Tours en novembre, 18-19 novembre 2022.
Ah, et Yves-Jean Gallas, vous en faites partie aussi?
J'en fais partie aussi, oui, toujours.
Vous avez des noms comme ça de ceux qui en font partie, vous en souvenez? Il y en a 26 de membres, vous êtes un mouvement important.
Il y a Roland Nivet qui est de Rennes, il y a Alain Rouy qui est du 94... Il y a Michel Touzeau qui est du 78.
Pierre-Olivier Poyard,
qui est des Vosges.
Élise
qui est de la Nièvre.
Il y a aussi de Toulon.
Toulon. On aurait dû prendre notre liste.
Ah oui. Bon, on n'a pas toute la liste, il y en a beaucoup.
Mais est-ce que vous avez des... L'idée, c'est quand même parité homme-femme. Et autant que possible, un équilibre entre Paris et la province. Donc, ne pas être complètement parisien ou rien que des mecs. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette nouvelle promotion, si je puis dire, c'est qu'il y a pas mal de jeunes.
Et voilà, ça c'est important, je crois.
Et pour nous, c'est évident.
Est-ce que vous avez la parité, vieux-jeunes? Nous, on l'a pas, l'Union Pacifiste.
Nous non plus.
Tout dépend où on met la barre.
D'accord. Oui, il paraît qu'il faut rester jeune, bon, mais ça ne se voit pas, ça ne se voit pas toujours. Bon,
et ça ne s'entend pas.
Alors, ce qui est intéressant peut-être pour moi, puisque je crois que vous venez pour la première fois à Radio Libertaire, c'est qu'on sache un peu votre engagement pour la paix. Comment vous êtes engagé pour... Parce que là, vous êtes presque à plein temps pour défendre ce mouvement. Alors, on va commencer par Edith, peut-être.
Oui. Ben, moi, en fait, c'est quand j'ai compris que Hiroshima et Nagasaki... Et en fait, je l'ai compris qu'à 18 ans, parce qu'on ne me l'avait jamais enseigné, on n'en parlait jamais. Je me suis dit, dans quel monde vit-on ? Après, bon, j'avais dit, je ne veux pas d'enfant, j'en ai eu par amour, tout ça. Et finalement, après, j'ai rencontré quelqu'un du mouvement de la paix à Boissy-Saint-Léger. Et là, j'ai milité au sein du mouvement de la paix. Et depuis ma retraite, j'avoue que je milite beaucoup plus.
Presque à plein temps.
Ah oui, c'est un plein temps parce que je m'occupe notamment de Planète Paix, qui est le mensuel édité par le mouvement de la paix, et qui a plus de 70 ans.
Voilà.
Donc, et qui est réalisé par des bénévoles, sauf notre info-maquettiste. Donc, effectivement, s'occuper de ce mensuel, c'est un plein temps. Et donc, on fait pas mal. J'étais au secrétariat national un temps, et puis maintenant, non, parce que je m'occupe vraiment de Planète Paix, mais je me retrouve complètement dans les valeurs, notamment de la culture de la paix.
Alors, on va écouter... Yves-Jean Gallas, comment il est arrivé, lui aussi, à presque consacrer son plein temps. Alors, c'est bien les retraités, hein, finalement. On est très occupés.
Et c'est plus que du plein temps, parce que les week-ends, ils passent aussi.
Ah oui.
Tandis qu'au moins, quand on est salarié, les week-ends, on est relativement tranquille.
Alors, vous avez été salarié à un moment.
Alors, oui, j'ai été salarié. J'ai une formation d'ingénieur mécanicien. Et donc, travailler dans un certain nombre de choses, beaucoup travailler sur les questions de compétences et de liens entre organisation du travail et compétences, comment une organisation peut être génératrice de compétences, notamment collectives, etc. Enfin, des trucs qui m'ont assez passionné. J'ai aussi pas mal milité syndicalement à la CGT. Et donc, j'ai toujours eu une oreille attentive sur les questions de la paix, notamment depuis que j'ai appris que dans les 3 ou 4 jours après que ma mère et moi ayons quitté la maternité, l'hôpital où je suis né à Rennes a été bombardé et quasiment détruit. Donc, même si je m'en souviens évidemment pas, c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, bon, bref. Et à la retraite... Je me suis trouvé embringué avec bonheur dans le mouvement de la paix où j'ai eu quelques responsabilités diverses et là actuellement je suis responsable pour l'Île-de-France du mouvement de la paix.
Alors, on va un peu redécrire ce mouvement de la paix, parce que, bon, c'est intéressant peut-être pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent de savoir que ça a été créé en 1948, tout de suite après la guerre. Alors, un peu l'histoire de ce mouvement de la paix, comment il est né ?
Alors, il a été créé par d'anciens résistants qui, au-delà de toute confession, de toute opinion politique, s'étaient unis contre le nazisme. Et donc, ils ont dit, eh bien, plus jamais la guerre, bien sûr, et on va s'unir pour, justement, prévenir toute guerre. Donc, en fait, le mouvement de la paix, c'est pour prévenir les guerres, pour créer les conditions de prévention des guerres. Donc, eh ben, il a commencé en 1948, et puis il y avait une revue qui s'appelait à ce moment-là « Combat pour la paix », qui s'est évidemment transformée, puisqu'on est contre les armes, qui s'est transformée en « Planète Paix » en 2005. Ils ont au départ lutté beaucoup contre l'arme nucléaire, puisque en 1945, ça a été quand même un choc. Et donc, une des campagnes qui est malheureusement toujours d'actualité, c'est évidemment la campagne pour le désarmement nucléaire.
Pour le désarmement nucléaire, oui.
Mais après, en 2000, il y a eu la notion de culture de la paix défendue par l'ONU. Et donc, c'est beaucoup plus évidemment large que ça, puisque la paix, ce n'est pas que l'absence de guerre. Il y a plein de sécurité, l'alimentaire, sanitaire, etc. Environnementale maintenant, et depuis quelques années d'ailleurs, nous luttons vraiment contre le dérèglement climatique, avec les jeunes notamment.
Alors, en 1948, il y a quand même des personnages célèbres qui ont été...
qui ont créé ces mouvements. Je voulais citer aussi Charles Tillon.
Bien sûr.
Charles Tillon, qui a été quand même un peu... presque au début hein, de ce, presque, de ce mouvement.
Oui, il a fait partie de l'équipe qui a démarré avec Yves Farge, avec... Léo Braque, aussi bien Lucie que Raymond.
Ah oui.
Picasso est arrivé très vite. Il y a eu Fernand Léger, Paul Éluard, enfin des noms. Gide. Il y a eu tout un élan, comme Edith l'a dit, de la part de ces anciens résistants qui disaient on a tous été unis pendant la guerre contre le nazisme, donc faut qu'on reste unis tous, quelles que soient nos idées par ailleurs, contre la guerre. Et je crois qu'une des particularités du mouvement de la paix, c'est que précisément on est pour la paix, comme disait Edith tout à l'heure. La paix, ce n'est pas que l'absence de guerre, mais la paix, c'est quelque chose qui se construit. Et les 8 domaines d'action de la culture de la paix, c'est des éléments de construction de la paix. Le premier, c'est l'éducation. Et je crois qu'il faut qu'on en revienne, notamment quand on voit le SNU qui...
On va en reparler du SNU.
Ben j'imagine, oui, j'ai pas de doute là-dessus. là, le SNU, il y a l'égalité homme-femme. Il y a la liberté de la presse, il y a le partage des connaissances, etc. Il y a 8 domaines d'action, le dernier étant des discussions au niveau international. Et donc, pour aller vite, si l'égalité entre les hommes et les femmes s'améliore, la paix augmente. Si la liberté de la presse s'améliore, et là c'est pas le cas, si elle s'améliorait, disons, la paix avance, etc. Je pense que, alors, c'est pas vraiment un baromètre, mais l'idée, c'est justement de partir de tous les éléments, Edith parlait de sécurité tout à l'heure, de tous les éléments qui permettent justement à ce que les individus, comme les groupes, comme les pays, puissent vivre en harmonie, et que surtout les conflits, parce qu'il y en a toujours, et que les conflits se règlent sans violence.
Alors j'aimerais revenir un peu sur Charles Tillon, parce que Charles Tillon a été exclu du Parti communiste en 1957, je crois, avec André Marty. Oui. Ils ont eu des problèmes. Et alors, ce que j'ai appris, je le savais plus ou moins, qu'il s'est réfugié à Montjustin, dans les Basses-Alpes, où il y avait un autre communiste important, peintre, qui s'appelle Serge Furiot, qui est le cousin de Jean Giono. Ah et oui. Qui est mort à plus de 100 ans, il y a quelques années. Et alors, Montjustin, ce n'est même pas un village, c'est un hameau où, justement, Serge Furiot, enfin sa famille italienne, s'est réfugié. Son frère était maçon et ils ont reconstruit toutes ces maisons-là. Et donc, je ne savais pas que Charles Tillon était resté là-bas une dizaine d'années. Et actuellement, dans le cimetière, le tout petit cimetière de Montjustin, est enterré aussi Henri Cartier-Bresson, le photographe. Mmh. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont passés là-bas, à Montjustin. Alors je le dis parce que c'était ma région, donc j'y allais et on avait fait des choses avec Serge Furiot. Alors il y avait aussi Frédéric Joliot-Curie. J'aimerais qu'on dise quand même un mot de Frédéric Joliot-Curie.
Alors peut-être juste une petite remarque,
oui.
Tu parles de Tillon. Ces problèmes avec le Parti communiste, ça le regarde lui et ça regarde le Parti
Absolument.
Communiste.
Oui.
Comme je le disais, le mouvement a été créé avec des gens d'obédience, de valeurs, de religion, etc., extrêmement différentes. Et c'est dans notre ADN, ça, c'est important. Il y a même un jésuite qui a été parmi les fondateurs, l'abbé, l'abbé Boulier. Donc, etc. Et donc, le Parti communiste fait partie, bien sûr, des gens avec qui on travaille beaucoup, parce que ça fait partie aussi, en grande partie, de leur ADN. Mais bon, ce qui s'y passe ne nous concerne pas, enfin, ou indirectement, disons.
Oui, je sais que, de toute façon, maintenant, le mouvement de la paix est très ouvert.
Ah ben
et que viennent au mouvement de la paix tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui les
qui sont d'accord avec les valeurs du mouvement et notamment dans le cadre de la charte des Nations Unies.
Alors voilà, cette charte des Nations Unies, justement, je voulais quand même qu'on la cite, de 1945, et qui, donc, le mouvement de la paix se rattache essentiellement à cette charte.
Ah, c'est une référence.
Ah, c'est dans ses statuts d'ailleurs.
C'est dans ses statuts.
C'est dans les statuts. Ah,
pour adhérer au mouvement de la paix, il faut avoir lu la Charte des Nations Unies.
Et quand on la relit attentivement, on s'aperçoit qu'elle n'a pas pris une ride.
Et oui. Mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée ?
Ben non.
C'est un peu ça le problème.
Malheureusement, ce n'est pas que pour la Charte des Nations Unies.
Et oui,
mais quand même, je voudrais dire quand même... Oui. C'est quand même quelque chose de formidable parce que c'est une loi universelle. Et quand même, même les Nations Unies, puisque ça émane des Nations Unies, eh bien, c'est dans l'histoire de l'humain, c'est une histoire extrêmement proche, extrêmement récente. Même si elle a plus de 70 ans, eh bien, c'est quand même quelque chose de très récent. Donc, il faut améliorer.
Et la réformer, mais c'est toujours très difficile. Enfin, les Nations Unies et la Charte... se sont construits indépendamment des rapports économiques. Donc tout ce qui est maintien pour retrouver la paix, tout ce qui est culturel, tout ce qui est santé, c'est l'ONU fait un travail extraordinaire, mais tout le côté économique est complètement exclu du champ d'action. Toutes les grandes organisations comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, ne font pas partie du système onusien. Et je crois que de plus en plus, c'est les raisons pour lesquelles les Nations Unies marchent d'une patte, quoi. Et donc, nous, on dit la référence aux Nations Unies reste importante. Par contre, c'est aussi important qu'on trouve les moyens de la rénover et notamment de revoir tout ce qui est autour du Conseil de sécurité et puis le droit de veto des 5 membres permanents qui sont les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est en même temps les 5...
On peut les reciter, la Chine, la Russie...
La Chine, la Russie...
La France...
La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Et les États-Unis, c'est ça, les 5.
Et donc les équilibres mondiaux ne sont plus du tout les mêmes que les équilibres en 1945. Donc là, c'est l'un des gros problèmes auxquels on est confrontés, tous.
Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter, une chanson de Jean Ferrat. On va écouter cette chanson qui s'appelle, c'est normal, hein, « C'est beau la vie », mais chantée par Isabelle Aubray.
Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau la vie.
êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Edith Boulanger et de Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Alors nous avons retracé un peu les débuts de ce Mouvement de la Paix depuis 1948 et il faut quand même aborder maintenant les campagnes. Tout ce qui se fait encore aujourd'hui, parce que ces campagnes qui ont commencé d'ailleurs il y a très longtemps, par exemple contre le nucléaire, ben aujourd'hui, on continue ces campagnes parce qu'on se rend compte que le problème n'est toujours pas réglé et qu'il est de plus en plus menaçant d'ailleurs. Alors, peut-être Yves-Jean Gallas, ce problème de du nucléaire, aujourd'hui
Tu parlais tout à l'heure de Joliot-Curie. Joliot-Curie est un des premiers membres, bien sûr, du mouvement de la paix, mais Joliot est surtout celui qui a créé le Conseil mondial de la paix, qui existe encore, le mouvement en fait toujours partie, et donc qui permet d'avoir des contacts avec des pays aussi bien africains, asiatiques, européens, etc. Donc qui est un élément international important pour nous. Le mouvement de la paix est français, mais on a tout un réseau international, donc le Conseil mondial de la paix, il y a aussi le Bureau international de la paix, il y a plusieurs mobilisations, notamment contre l'OTAN, etc. Donc c'est l'aspect international. Donc,
Joliot-Curie, puisqu'on en parle, hein,
c'est l'appel de Stockholm.
Voilà. Et puis, il faut dire qu'il était quand même dans le nucléaire lui-même. Enfin, il a inventé De Gaulle. Il lui avait demandé de préparer la bombe. Hein.
Oui. voilà. Au CEA.
Donc, il était directeur du CEA, mais il n'est pas resté très longtemps parce qu'il n'était pas très gaulliste, je crois, à l'époque.
L'histoire dit qu'effectivement, il y a eu quelques mots entre Gaulle et lui, mais bon, on y était. Pas.
Et c'était le gendre de Marie Curie.
Ah oui, c'est absolument. Donc et puis encore le centre.
Il a été prix Nobel.
Marie Curie, voilà. Nobel. Donc il y a un historien qui a fait d'ailleurs un très beau film, un très beau livre, très important sur Joliot-Curie, qui raconte tout son itinéraire. Et c'était un livre. Alors j'ai pas le titre en tête, mais c'est un itinéraire très intéressant, l'itinéraire de Frédéric Joliot-Curie.
Voilà. Ah, Joliot, il a travaillé un petit peu dans la foulée familiale, bien sûr, mais sur le nucléaire. Et assez vite, semble-t-il, il s'est aperçu que la partie militaire, la bombe, devenait quelque chose d'incontrôlable et autre. Et c'est là où il a complètement viré sa cutie, un petit peu comme Einstein d'ailleurs, ou Oppenheimer. Oui. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont vu le diable qui sortait de la boîte, là, tous ces gens qui... Et pour cause, avait quand même des idées assez précises de ce qui se préparait, là. Et donc, ils sont à l'origine, tous d'ailleurs, Joliot et les autres, mais c'est Joliot qui a été le dernier, enfin, qui a lancé principalement les choses, c'est l'appel de Stockholm, qui reste actuellement dans le monde. La pétition qui a eu le plus de signatures. Alors, selon les uns, on arrive à 200, 300 millions. Enfin, c'est des chiffres considérables qui font rêver actuellement.
C'est un appel mondial. Hein.
C'est un appel mondial, oui, mais sur plus de 200 millions.
Alors, je ne me rappelle plus exactement la date, mais il y avait eu, justement, 1950, Hiroshima.
1950
pour l'appel de Stockholm.
L'appel de Stockholm.
Voilà, c'est ça, oui. Et déjà, tout le mouvement anti-nucléaire s'était mis en route. Hein,
oui, bien sûr.
Parce qu'il y avait des armes déjà qui s'installaient de part et d'autre, et il a dit bon, stop.
Oui, mais au début, excusez-moi, quand il y a eu l'explosion d'Hiroshima et Nagasaki, tout le monde a applaudi.
Sauf Albert Camus,
qui a dit le suicide collectif. Mais sinon, c'était une prouesse technique, ils ne voyaient que ça.
Et juste une petite remarque. Actuellement, on nous parle de la modernisation des armes nucléaires et notamment des armes que l'on dit armes tactiques ou bien armes de champ de bataille, etc. Quand on parle de ces armes, c'est des armes qui ont à peu près la puissance d'Hiroshima et Nagasaki, qui sont 1000 fois plus faibles que les bombes qui actuellement sont mises en place un peu partout. Et les États-Unis, par exemple, sont en train de déployer sur toute l'Europe les nouveaux modèles de bombes. Qui donc vont remplacer les anciennes bombes de soi-disant désuètes. Et ça, il y a des avions américains qui doivent se balader je ne sais où au-dessus de l'Europe avec dedans quand même des cargaisons particulièrement inquiétantes.
Et de la même façon, les sous-marins français se baladent aussi avec leurs missiles prêts à intervenir, et des avions nous survolent sans qu'on le sache, etc. C'est une arme extrêmement dangereuse contre laquelle nous sommes tous opposés, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut provoquer comme... enfin, on a vu déjà, mais on dit que même dans un sous-marin français qui se balade, c'est à peu près 50 fois Hiroshima. Quoi. C'est même plus que ça. Il y a de quoi détruire la planète
milliers,
en somme de
plusieurs milliers. Ah non, on est dans des ordres de grandeur qui sont considérables. Alors déjà, on voit les dégâts d'Hiroshima, mais quand on pense à ce que ça pourrait être, c'est un des points qui a mobilisé 400 ONG, dont le Mouvement de la Paix, dans une campagne internationale ICAN en anglais, donc campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire. Et donc je crois que c'est important à signaler parce que c'est sans doute la première fois que des ONG ont travaillé ensemble avec des diplomates, avec les Nations Unies, donc qui ont abouti à une première proposition, et cette proposition a été retravaillée par les Nations Unies pour devenir un traité. Donc, on parlait des Nations Unies tout à l'heure. Les Nations Unies, c'est nous, les peuples, unis pour, après avoir connu plusieurs fois dans ce siècle les erreurs de la guerre, etc. Le peuple, c'est aussi les ONG. Et je pense que c'est important qu'on ait ça en tête et que l'ensemble des ONG, sur un ensemble de sujets très précis, puissent s'organiser entre elles pour un peu... suivre cette démarche qui a été faite pour le traité d'interdiction des armes nucléaires. Je le dis parce que c'est pas suffisamment dit. Ce qui a valu d'ailleurs à ce collectif international contre les armes, le prix Nobel de la paix en 2017. Donc on a le mouvement de la paix, un petit bout du prix Nobel, et évidemment on en est très fiers.
Alors le problème de ce traité, c'est que la France ne l'a pas signé.
Ah non, aucun des 9 pays dotés de l'arme nucléaire ne l'a signé, bien sûr. Le premier qui a ratifié, parce que là, il y en a 69 maintenant, ratification, mais le premier État qui a ratifié le TION, c'est le Vatican.
Ah oui.
Voilà. Et donc c'est bien. Et justement, le prix Nobel a été accordé à ICAN International parce que justement... avec les ONG, ils avaient démontré les conséquences humanitaires et environnementales de toute explosion. C'est avec cet aspect-là que le ICAN a été récompensé.
Et alors, je crois qu'il fallait un certain nombre de pays, ça ne s'est pas fait facilement. Nous avons fait une émission avec un monsieur qui a beaucoup milité pour ce traité, pendant au moins 30 ans, pour le faire avancer. Il avait beaucoup de difficultés. Il allait de temps en temps à New York, il repartait, il allait dans différents pays pour essayer de convaincre. Alors, je crois qu'il fallait qu'il y ait 150 pays, c'est ça, je ne me trompe pas.
Non, 50 pays ratifiés.
Il a fallu atteindre ce chiffre Il y a deux ans.
Donc c'était le 22 janvier.
Voilà. Alors il se trouve que tous les pays qui ne l'ont pas signé sont dans l'illégalité.
La France donc.
On a encore du travail.
Ça fait partie des campagnes du mouvement de la paix.
Voilà.
De voir comment inciter nos députés et sénateurs à voter de la bonne manière pour justement ratifier ce traité et s'y conformer.
Alors, il y a aussi, justement, là, je crois qu'il y a une autre campagne, c'est contre Eurosatory. Alors, Eurosatory, c'est un marché qui existe depuis presque très longtemps en France, le marché de l'armement.
Oui. Et qui prend de l'ampleur formidable, tous les deux ans. Il a lieu tous les deux ans à Villepinte, maintenant. Au départ, c'était à Satory, maintenant c'est à Villepinte. Donc, tous les deux ans, c'est formidable, parce que si vous allez sur le site Eurosatory, franchement, c'est merveilleux. Alors, même, ils ont eu l'audace, cette année, en 2020, puisque c'est toutes les années paires, 2022, de mettre comme logo un arc-en-ciel. Parce que c'est...
L'arc-en-ciel de la paix.
L'arc-en-ciel de la paix. Et dans deux ans, eh bien, ils vont mettre un autre logo. C'est celui du profil d'une femme pour montrer que la femme est tournée vers l'avenir.
Et l'armement.
Et voilà. Et donc, alors, c'est vrai que le mouvement de la paix, avec un collectif contre Eurosatory, et avec des pacifistes européens aussi, eh bien, on essaie de se placer devant les portes du salon de Villepinte pour, avec nos banderoles, dire non au commerce des armes. Évidemment, on est très peu entendus, et même cette année, en 2022, c'est une première, on a été interdit de toute manifestation, de tout rassemblement dans les deux villes, Villepinte et Le Tremblay, qui étaient à côté. Et d'ailleurs, on ne le savait pas parce qu'on est arrivé, on avait l'autorisation préfectorale, on est arrivé avec nos pancartes, etc. Et il y a eu différentes discussions entre les différents services de police, parce qu'il y en a plein.
Qui n'étaient pas d'accord.
Qui n'étaient pas d'accord entre eux, tout ça. Et finalement, on a été éjectés. Donc, c'est pour dire, cette année, alors qu'on est une vingtaine, on n'est pas assez nombreux, bien sûr.
On n'est pas assez nombreux, mais bon.
mais ils ont retiré au dernier moment, comme exposant, la Russie. Ah. Mais il y avait deux exposants d'Ukraine, par exemple.
Ah oui.
Ah, c'est très intéressant, on voit tout le monde avec sa petite mallette venir faire ses courses.
Mais ce qui est... en complément de ce que vous avez dit, c'est le premier marché mondial de l'armement. Donc, Cocorico... Monsieur Macron doit être content. D'ailleurs, c'est lui, ce qui n'était pas prévu initialement, c'est lui qui a inauguré le Eurosatory 2022, alors que normalement, ça aurait dû être le ministre des armées qui aurait dû le faire. Et donc, ça montre bien toute cette politique de militarisation qu'on connaît en France et qui se développe de différentes manières. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en
parler. Notamment du budget.
Et du budget, oui.
Alors, donc, on a parlé des armes nucléaires, mais à Eurosatory, il n'y a pas que les armes nucléaires, il y a toutes les armes.
Ils n'y sont pas, les nucléaires.
Ils n'y sont pas, mais c'est surtout pour...
on en parle.
C'est surtout pour même le maintien de l'ordre.
Oui, bon, aussi.
Juste pour la guerre intérieure, hein. C'est pas que la guerre extérieure, c'est la guerre intérieure. Alors, il y a une autre campagne, c'est pour les Kurdes, je crois, que vous menez au mouvement de la paix depuis longtemps.
Depuis au moins 30 ans. On avait été sensibilisés à la question kurde par Madame Mitterrand, Danielle Mitterrand, qui, il y a 25 ans à peu près, avait constitué autour d'elle une sorte de collectif de tous les partis kurdes, donc iraniens, irakiens, syriens et turcs, et elle avait demandé à un certain nombre d'associations, d'ONG, de participer justement pour avoir une discussion un petit peu ouverte. Alors il y avait la CAT, il y avait le MRAP, il y avait le mouvement de la paix, etc. Et donc, c'est moi qui représentais le mouvement au départ, et je dois dire que ça a été une découverte de ce grand peuple, un grand peuple pacifique, qui a 2 ou 3 000 ans d'histoire, et qui a une vraie civilisation. Et donc, ce peuple est éclaté entre 4 pays, c'est-à-dire, il y a une partie, le Kurdistan, qui existait du temps de l'Empire ottoman, a été coupé en 4, donc Turquie, Irak, Iran...
Après la Deuxième Guerre mondiale, je crois.
Alors, la Première Guerre mondiale, il y a le traité de Versailles, donc, qui était pour l'organisation à l'intérieur de l'Europe, et le traité de Sèvres, qui était pour le reste du monde, et en grande partie le Moyen-Orient, avec la disparition de l'Empire ottoman. Donc, dans le traité de Sèvres, il était question, justement, que le Kurdistan, qui est un pays qui s'appelle Kurdistan, dans les frontières de l'Empire ottoman. que l'on voit sur des vieilles cartes d'ailleurs. Donc on regarde des cartes du début du XXe siècle ou même avant, on voit ça. Et donc ça a été jugé intolérable à l'époque par les Français et les Anglais. Et donc le traité de Sèvres a été complètement laminé. Et donc il y a eu un deuxième traité qui s'appelle le traité de Lausanne en 2023, dans lequel les Kurdes ont été divisés entre quatre pays. Et actuellement...
Hein? En 1923. Oui. T'as dit 2023.
Ah, pardon. Oui, 1923, oui.
Pardon.
Oh, non, mais c'est pas grave. Non. On comprend. On a rectifié.
Oui. Et donc, les choses se passent mal dans l'ensemble de ces quatre pays, parce qu'ils sont minoritaires, mais ils représentent facilement en Turquie 30% de la population. Donc, c'est des... Et actuellement, toute la politique des principaux partis kurdes, enfin, les Kurdes ne sont pas tous unanimes au point de vue politique, notamment par rapport à M. Erdogan, mais quand même, il y en a un certain nombre qui ont beaucoup de points communs. Et donc, il y a toute une coalition qui existe au sein de la Turquie, avec des Arméniens, avec
des Assyro-Chaldéens.
Enfin, des Yézidis, l'ensemble des ethnies de la région. Et au moins statistiquement, ils représentent une majorité, au point de vue, en tout cas, population. Ce qui fait que le président Erdogan, qui est en mauvaise situation, il y a des élections au mois de mai, il y a une inflation galopante, etc. Il est amené, au niveau interne, à aggraver la situation pour les Kurdes et pour tous les opposants. Il n'y a pas que les Kurdes qui sont en prison, mais le nombre d'avocats, le nombre d'enseignants, le nombre de journalistes, des journaux qui ont disparu, etc. Enfin, c'est vraiment assez effroyable.
Et puis là, il y a une actualité dramatique qui a été le tremblement de terre, oui, qui a touché essentiellement aussi la région kurde,
oui.
Aussi bien du côté syrien
tout
que du côté turc. Et il y avait d'ailleurs dans cette partie kurde aussi pas mal de Syriens réfugiés qui avaient
tout
fui le régime de...
Enfin
de
Je peux oui, en profiter en tant que femme.
Oui.
Pour dire quelque chose sur les femmes kurdes.
Oui.
Puisque nous sommes allés là-bas. Et donc, dans les municipalités, c'est des co-maires.
Ah.
Les hommes partagent le pouvoir avec une femme. Ils partagent aussi, donc, leur paye. Donc, ce qui est formidable, parce qu'il y a quand même le patriarcat qui est très tenace là-bas, et il y a beaucoup de femmes qui luttent pour une nouvelle société, justement, avec égalité hommes-femmes. Et on a beaucoup parlé des femmes de Kobané, qui ont évidemment résisté aux djihadistes, mais maintenant, on les oublie complètement. Alors ça, je trouve ça scandaleux, mais il est vrai que les femmes ont une place importante, et il y a beaucoup de femmes en France qui luttent pour une nouvelle société basée sur l'égalité femmes-hommes, notamment dans le pouvoir, dans les questions de pouvoir.
Et vous y êtes allé en quelle année, alors, justement, pour visiter
On est allé deux fois. On est allé en 2000, lors du procès des 150 Kurdes à Diyarbakir, qui a été justement, là, c'est terrible, parce que le séisme a touché Diyarbakir, qui est la capitale du Kurdistan turc. Donc, on était là-bas en tant qu'observateur international. Et puis après, on est allé pour suivre, en tant qu'observateur aussi international, pour suivre des élections municipales, justement. Et là, on a visité un camp de réfugiés où il y avait des réfugiés syriens et des réfugiés du tremblement de terre 1999. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, le gouvernement turc n'a quasiment rien fait pour les réfugiés du séisme, du tremblement de terre de 1999.
Dans les territoires kurdes. Et c'est en train, enfin là actuellement, on semble assister à la même chose. Et il y a de plus en plus de Turcs même qui disent que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait, quelle que soit l'ethnie d'origine.
Qui est touché. Alors, on va écouter, on va faire une petite pause musicale encore, avec une chanson, cette fois, de Jacques Brel, une chanson qui s'appelle La Colombe, puisqu'on est dans La Colombe. C'est pas celle de Picasso, mais il a dû s'en inspirer, peut-être, Jacques Brel.
Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quart attendent les massacres sur le quai d'une gare? Pourquoi ce train ventru qui ronronne et soupire avant de nous conduire jusqu'au malentendu? Pourquoi les chants, les cris des foules venues fleurir, ceux qui ont le droit de partir au nom de leur connerie? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi l'heure que voilà, où finit notre enfance, où finit notre chance, où notre train s'en va? Pourquoi ce lourd convoi chargé d'hommes en gris, repeint en une nuit pour partir en soldat? Pourquoi ce train de pluie? Pourquoi ce train de guerre? Pourquoi ce cimetière en marche vers la nuit? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites, les phrases déjà prêtes qui suivront l'enterrement? Pourquoi l'enfant mort-né, que sera la victoire? Pourquoi les jours de gloire que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre que l'on va peindre en gris, puisque c'est au fusil qu'on éteint la lumière? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage dégrafé par les larmes qui me rendaient les armes aux sources du voyage? Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe? Pourquoi ces prochains jours où je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour? Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
Nous sommes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Et nous sommes en présence aujourd'hui de Édith Boulanger et Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Alors nous avons évoqué quelques campagnes qui sont menées par le Mouvement de la Paix et auxquelles d'ailleurs l'Union Pacifiste est souvent associée. Et il y a par exemple aussi la campagne pour la Palestine, aussi une guerre qui dure depuis des années et des années et qui n'est toujours pas résolue, et d'autant plus qu'actuellement, avec un régime d'extra-droite en Israël, c'est de plus en plus inquiétant. Alors, ce mouvement a démarré quand, cette campagne, chez vous ?
67, dès les années 60, j'aurais pas donné de date, mais ça a toujours été une des mobilisations importantes du mouvement, avec donc des liens assez importants avec les différentes organisations palestiniennes, notamment avec Arafat à l'époque, mais également avec un certain nombre d'organisations israéliennes pacifistes. Mm-hmm. C'est-à-dire que, alors malheureusement, toutes ces organisations ont été un peu laminées et elles restent quand même très minoritaires. On continue à avoir des contacts avec eux, mais c'est vrai que ils n'ont plus la force qu'ils avaient il y a ne serait-ce que 20 ans. Mais pour nous, c'est important d'avoir des contacts de part et d'autre, d'écouter les Palestiniens dans leurs revendications, ne pas leur imposer nos propres analyses, mais les écouter et puis leur demander, en fait, comment est-ce qu'on peut vous aider? Je crois que c'est ça le plus important dans la diversité. Et, qu'est-ce qu'on est, nous, à 2000 kilomètres? On n'est pas sous les bombes, on n'est pas dans ça. Et donc, on participe à un certain nombre de collectifs pour une paix juste et durable, etc. Donc on est en lien constant avec eux. Mais là, Edith va en parler. On est en train de préparer, là pour le journal. Donc, pour nous, c'est un des points importants sur lequel c'est une des campagnes de base de l'activité du mouvement de la paix.
Alors, Edith, vous dites que vous préparez quelque chose pour le journal.
Un dossier pour le numéro d'avril, parce que ça correspondra aux 75 ans de la Nakba, donc le retour à la terre. Et donc là, il y aura un dossier fourni sur justement ce qu'on nomme officiellement maintenant l'apartheid, puisque Israël fait l'apartheid, la colonisation, ce qui est encore autre chose. Donc il y aura des thèmes de réflexion de différents auteurs sur cette colonisation due à Israël, et c'est vraiment catastrophique. Donc... c'est vrai qu'on n'y va plus. Un temps, les mouvements de la paix allaient aux conférences de Bilin, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de non-violence, d'actions non-violentes de la part des Palestiniens. Et il y a Bernard Ravenel, par exemple, qui avait fait un livre
qui
là-dessus, qui vient de décéder.
Il n'y a pas très longtemps, ouais.
Voilà. Et donc, la notion de non-violence est à diffuser, en tout cas. Parce qu'on ne voit toujours que les Palestiniens en tant que terroristes. Voilà. Donc, je vous invite à lire le Planète Paix d'avril, bien sûr. Et il y a une commission, un groupe de travail, évidemment, sur Proche et Moyen-Orient, au sein du mouvement de la paix, qui se penche sur cette question-là et qui font partie de différents collectifs.
Alors, vous avez aussi peut-être l'appui des Israéliens. Donc, on a parlé de ce mouvement... qui est malheureusement très, très limité aujourd'hui, mais il y a encore quand même des personnalités courageuses en Israël qui refusent de... Parce qu'on le sait que là-bas, tout est obligatoire, hein, le service militaire et le reste, et qui refusent quand même aujourd'hui encore. Et curieusement, même en France, il y a des cinéastes, il y a des écrivains qui essaient de se manifester, des cinéastes juifs, et qui sont très très mal vus,
Daniel
et même
Kupferstein,
des fois menacés.
Vous connaissez le film de Daniel Kupferstein?
Oui.
C'est pas en mon nom.
C'est pas en mon nom, pas en mon nom, n'est-ce pas? Il a interviewé 4 hommes, 4 femmes, justement, qui sont d'origine juive, et ils ont demandé leur opinion par rapport à la Palestine. C'est un film très intéressant.
Enfin, ils ont expliqué pourquoi ils étaient contre la politique de Palestine.
Qu'ils sont venus
à ça. D'Israël, même en tant que juifs.
Et oui, mais c'est ça qui est le plus impressionnant. Ouais. Par exemple, au festival du site Buriel à Beaubourg, il y a eu souvent des films tournés par des Israéliens et des Palestiniens. Il y en avait notamment un qui s'appelait Route 101, ou Route 102, je ne sais plus, mais qui avait été tourné par deux réalisateurs, comme ensemble, un Israélien et un Palestinien. Le Palestinien n'avait pas eu son visa pour venir en France, mais l'Israélien l'avait eu. Et donc, il s'est exprimé, c'était souvent dans la salle, et il a été pris à partie, mais de façon violente. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un débat concernant Israël, il y avait dans la salle, et j'ai connu aussi, on a un autre ami réalisateur et cinéaste, qui s'appelle Abraham Segal, qui a fait beaucoup de films, y compris pour la télévision, et lui, c'est pareil, il est pris à partie chaque fois qu'il fait quelque chose en commun. Là, il y a vraiment... On est...
Oui.
Alors,
mais quand on déclare une manifestation ou un rassemblement dans lequel Israël est concerné, et souvent, pour le mouvement de la paix, c'est moi qui m'en occupe, la préfecture de Paris. Ça, c'est pas le plus important. On reçoit avec le récépissé toute une liste de textes de loi dans lequel on n'interdit pas votre rassemblement, mais il ne faut pas que vous fassiez ci, ça, avec des références de textes de loi, donc que j'ai montré la Ligue des droits de l'homme, en leur disant, moi je ne suis pas juriste, qu'est-ce que vous en pensez? Et bien on dit, mais les textes ne disent absolument pas ça. Vous êtes tenu dans un rassemblement à ne pas dire des mensonges, de la calomnie, y a un certain nombre de règles, mais qui sont vraies pour tout le monde. Hein. Mais normalement, il n'y a aucun interdit particulier concernant Israël que tout autre pays ou toute autre organisation. Je crois que là-dessus, il y a quand même toute une campagne dans notre pays pour justement masquer ou essayer de masquer tout le travail qui est fait par diverses organisations en faveur des Palestiniens.
Tout à fait. Alors, c'est pas la seule campagne, peut-être qu'on les évoquera pas toutes d'ailleurs, mais enfin, je sais qu'il y en a une à laquelle vous tenez aussi, c'est la campagne pour le climat. Le climat est devenu à la mode, si on peut dire. À juste titre d'ailleurs, hein, parce que nous ne sommes pas des climato-sceptiques, nous autres, au contraire. On a parlé de tout ça depuis très très longtemps. Enfin, les gens en prennent conscience, mais je crois qu'ils ne savent pas tout. C'est-à-dire que on voit des initiatives qui sont prises un peu à droite à gauche, même qui ne sont pas tout à fait un peu... On se demande à quoi elles servent. Par contre, là, puisqu'on parle de l'armement, je crois que l'armement est terriblement... impacte terriblement le climat. Alors, je vais peut-être donner la parole à Edith, là, parce que vous avez travaillé beaucoup là-dessus.
C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, à peu près, on ne pouvait pas quasiment lier paix et climat. C'était un peu absurde. Et puis, finalement, on a commis un petit livret. Au début, on devait faire un 4 pages pour montrer la relation qu'il y avait justement entre les armées et le climat. Et puis finalement, de fil en aiguille, on a fait un 70 pages. C'est un petit livret, Paix et climat, pour montrer justement, nous concentrer sur l'impact des armées sur le dérèglement climatique. Et maintenant, c'est admis, il y a des relations entre le climat et la paix. Alors, nous, on dit que c'est un cercle et la guerre. C'est un cercle vicieux. Parce que le dérèglement climatique, c'est certain, ça va augmenter les inégalités. Hommes-femmes, par exemple, etc. Toutes les inégalités vont augmenter. Du coup, les inégalités sont source de conflits. Soit ça crée des nouveaux conflits, soit ça exacerbe les anciens conflits. Comme la famine, par exemple. La malnutrition, c'est... un risque majeur. Le problème de l'eau, c'est un risque majeur pour la paix. Et évidemment, donc, ça va alimenter des conflits, et ces conflits vont faire qu'on utilisera des armes, etc., et que ça va polluer, évidemment, notre terre. Parce que ce qu'on ne dit jamais, par exemple, dans les rapports officiels, il n'est jamais fait mention du secteur militaire comme secteur le plus polluant. Il y a 4 grands secteurs polluants, c'est les transports, etc., l'agriculture, mais on ne parle jamais du secteur militaire comme polluant. Or, il est prouvé qu'à peu près 20% d'émissions de gaz à effet de serre proviennent des activités militaires. Ça, c'est des chercheurs qui le font. Donc, ne serait-ce que par ça. Et pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi les armées ne déclarent-ils pas leurs émissions de gaz à effet de serre? Parce qu'ils en sont exemptés depuis le protocole de Kyoto en 1997.
Je ne savais pas.
Voilà. Donc, les pays sont obligés de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre, mais à la demande des USA, les armées en sont exemptées. Donc, évidemment, elles ne le font pas. Oui. Bon, alors, d'où il n'y a pas que les gaz à effet de serre. Parce que franchement, même, je suis scandalisée, parce que là, pendant la guerre là, d'Ukraine, on ne parle jamais de l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur notre planète, alors qu'on parle de sobriété énergétique, n'est-ce pas? Qu'il faut faire attention, chauffer moins, etc. Or là, un char, ça consomme 500 litres de carburant au 100, un Rafale, c'est 2000 litres à 6000 litres de kérosène par heure, etc. On n'en parle jamais. Bon, il y a ça. Mais, et puis, il y a aussi toutes les pollutions qui sont dues aux bombes, qu'elles soient non chimiques ou pas. Et on ne parle pas, quasiment pas, des bombes à uranium appauvri qu'a utilisé l'OTAN, notamment, pendant la guerre au Kosovo, en Serbie, etc. Ça, c'est sous silence. Il paraît que là, il y aurait des bombardements à uranium appauvri. On
n'en est pas sûr.
On n'en est pas sûr, mais voilà. On ne parle pas de toute l'agent orange, qui a des millions de litres qui ont été déversés au Vietnam et qui sont encore utilisés en Colombie pour les champs de cocaïne, par exemple. Bon,
oui. Et au Vietnam, justement, nous y étions encore il y a 3-4 ans, il y a encore, on cherche encore des bombes. C'est-à-dire que 50 ans après, et même, on en retrouve encore en France, de la Première Guerre mondiale.
Tout à fait.
Bon, de temps en temps. Alors, il faut dire que la pollution des guerres, elle est à long terme.
Elle est à long terme. Robin Desbois, cette association qui lutte pour ça, justement, le dit très bien. Les dégâts sont à long terme, n'est-ce pas? Et même, il y a encore des dégâts de la guerre de 14-18. On a retrouvé, paraît-il, des morceaux d'obus dans des champs de pommes de terre qui ont migré.
Exportés en Asie.
Ah bon, qu'on a retrouvé en Asie. Bon, c'est une petite anecdote, mais dans les Hauts-de-France, il y a encore des obus, parce que 10 à 20%, paraît-il, n'explosent pas. Donc, et par exemple, à Saint-Malo, il y a une île, Cézambre, qui a été occupée énormément par les Allemands pendant la dernière guerre mondiale. Eh bien, il n'y a que depuis 2 ans qu'il y a un chemin où on peut faire le tour, mais on n'a pas le droit. On
80% fait le tour est interdit.
De l'île, mais 80% est interdit, ce qui fait la joie des mouettes. Mais, vous voyez, donc c'est à long terme, c'est ça qu'il faut voir, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre, c'est toute cette pollution. Et il faut, là, même maintenant, pour l'Ukraine, il faut des dizaines d'années pour déminer l'Ukraine actuellement.
Oui.
Vous voyez, il n'y a pas que ça. Plus, évidemment, les communications. C'est très énergivore. Or, toute guerre nécessite des milliards de communications. Et d'ailleurs, la France s'enorgueillit d'avoir fait un satellite purement militaire, Syracuse-K, en octobre 2021, qui n'est que purement militaire.
D'ailleurs, au début, les satellites servaient d'abord à l'armée. Hein,
voilà, mais c'était dual quand même.
C'était souvent dual.
Oui, oui. C'était dual. Mais voilà. Alors, on va encore faire une petite pause, peut-être musicale, avant de parler de la revue Planète P, parce qu'il faut aussi qu'on en parle, et puis on va revenir aussi sur l'actualité, bien sûr, de l'Ukraine. Alors on va écouter Michel Arnaud, qui chante une chanson de Boris Vian, qui s'appelle « La marche arrière ».
C'est la marche des petits gars qui veulent pas la faire, la marche de ceux qui croient qu'on est bien mieux chez soi. Un coussin sous le derrière, par devant un feu de bois, avec une belle fille qui prépare le ratat. Des assis, la bonne marche arrière, celle des civilisés, la marche de la joie. Un soldat sans uniforme, c'est d'une bien plus jolie forme qu'à ça la gueule d'un homme, et c'est bien mieux comme ça. Quelque part sous une croix de bois, s'il sortait des cimetières, chanterait à pleine voix que l'on était mieux sur terre et qu'il faisait moins froid, qu'il regrette le soleil, le dimanche et les filles. Ces jolis plaisirs que l'on trouve ici-bas, c'est pour eux qu'il faut qu'on chante cette marche triomphante, marche de ceux qui s'arrêtent et qui ne marchent pas. Halte,
sommes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire, en compagnie aujourd'hui d'Edith Boulanger et de Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Alors nous avons bien sûr évoqué un peu les campagnes, on ne les a pas toutes évoquées parce qu'il y en a beaucoup d'autres encore. Pour amener la paix, hein, c'est une lourde tâche. Alors il y a une revue justement qui existe, qui s'appelle Planète Paix, qui existe depuis le début d'ailleurs du mouvement. Elle avait changé de nom, mais elle existe depuis le début du mouvement. Et par exemple, moi j'ai trouvé deux articles. Un article au mois de novembre de Edith Boulanger, justement, en première page, Une économie dévoyée, et où là justement on parle de l'écologie. Aussi. Et puis, notre article, alors au mois de décembre, La paix, je n'y crois guère, mais j'espère. Alors là, c'est signé, vous la connaissez certainement, de Camille Nousse.
Oui, oui.
Alors, comment, pourquoi elle y croit guère à la paix?
C'est par rapport à l'Ukraine. Hein,
c'est par rapport à l'Ukraine.
Ah, alors. Oui, l'apocalypse nucléaire, etc. Ah ouais. Ben, puisqu'on parle de l'Ukraine, alors parlons-en de l'Ukraine.
Oula.
Puisqu'on est en pleine actualité, bon, cette guerre, ça fait déjà plus d'un an, ou bientôt un an, le 24, ce fera un an, qui a été l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Mais c'est une guerre qui avait commencé bien avant, avec la guerre du Donbass, hein, déjà. C'était une guerre, disons, intérieure même au départ.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a à dire de cette guerre? Parce que...
Là, je crois que c'est important de confirmer ce que vous venez de dire, c'est que cette guerre n'a pas commencé le 24 février 2022. On peut trouver un certain nombre d'origines de cette guerre, mais ce qu'on oublie souvent de parler, c'est que en 2014, enfin, il y a eu en 2004 et 2005 ce qu'on appelait la Révolution Orange, qui était en fait une révolte de la population ukrainienne contre un certain nombre d'oligarques avec toutes les enfin, disons, tous les vols collectifs, etc. Mais en 2014, il y a eu un coup d'État. Alors, souvent, les gens nient qu'il y ait eu un coup d'État. Le fait est qu'un président ukrainien élu, normalement, enfin, son élection n'a fait l'objet d'aucune... ni national ni international, enfin, il n'y a pas eu de choses. Ce gouvernement a été destitué, et pour sauver sa peau, il a dû quitter Kiev extrêmement rapidement. Donc, si ce n'est pas un coup d'État, je ne sais pas ce que c'est. C'était dans le contexte du début de la guerre de la guerre du Donbass. Et donc, ont été élus après... Enfin, alors, il y a eu un président, M. Poroshenko, qui est un oligarque connu, spécialiste de l'industrie du chocolat, bon, qui a été élu, qui est un type corrompu comme les autres. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans sa première année de mandat, il y a eu deux ministres qui étaient issus de forces d'extrême droite et qui, en allant, si on va sur leur site internet, se réfèrent à leurs ancêtres Waffen-SS. Mais et quand je dis ça, il suffit d'aller sur leur site internet. Hein, c'est pas une.
C'est public.
C'est public. Et donc, après, ça a été M. Zelensky. M. Zelensky, il a fait toute sa campagne électorale en disant « Je vais, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais ramener la paix dans notre pays, etc. » Donc, il a fait un score tout à fait intéressant, 72-73%, sur un programme de paix. Mais dès qu'il a été élu, il a fait exactement l'inverse.
Alors, Yves-Jean Gallas, est-ce que vous avez séjourné, vous ? En Ukraine. Je crois que vous avez séjourné en Ukraine.
J'ai passé 5 ans en Ukraine.
Donc vous connaissez bien le pays.
J'aime beaucoup le peuple ukrainien. Ben oui, j'ai beaucoup baladé et j'ai rencontré pas mal de gens. Malheureusement, il y a un certain nombre de personnes avec qui j'ai travaillé ou avec qui j'avais des relations amicales dont je n'ai pas de nouvelles. C'est ce qui fait que je me sens...
Vous êtes impliqué, donc
Particulièrement impliqué dans ça, ouais. Et je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens de faire les choses. Et donc, la position du mouvement de la paix dans cette affaire, elle est simple à dire. Elle est simple à dire, c'est comment va-t-on rétablir la paix ? C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de donner des bons points, des mauvais points. Oui, mais Poutine, il a dit que. Oui, mais l'OTAN a dit que. Parce que c'est une guerre entre la Russie et l'OTAN.
Hein. Oui, c'est clair. Pour nous aussi, pour l'Union Pacifique, c'est clair.
C'est complètement clair. Il n'y a pas d'autre. Le pauvre Zelensky, c'est un peu une marionnette au milieu de tout ça, qui tient bien son rôle, comme tout bon acteur qu'il a sans doute été. Mais. Ce qu'il faut, c'est que les armes cessent de parler, qu'on se retrouve autour d'une table, que les Russes et les Ukrainiens mettent sur la table tous leurs contentieux, tous leurs désaccords, etc., etc., et puis qu'ils négocient, et que nous, on les aide. Notre rôle en tant que pays étranger, ou le rôle des Nations Unies, c'est de les aider à faire ça. Donc là, il n'y a pas notre position, elle est d'une grande clarté, on n'est ni pour ni contre l'un ou l'autre, on est pour les deux, de manière tout à fait nette, et qu'on trouve les moyens d'arrêter cette boucherie. Et donc, il faut à la fois un cessez-le-feu immédiat et à la fois d'arrêter de fournir des armes. C'est les pays de l'OTAN qui fournissent des armes à l'Ukraine, mais la Russie doit recevoir des armes de je ne sais qui. Donc il faut arrêter ce marché criminel en même temps que le cessez-le-feu, évidemment.
Alors effectivement, Macron en profite pour militariser un peu la France, relancer le budget de l'armée. On a l'impression qu'on n'est pas dans le sens de la recherche de la paix.
Absolument.
Donc,
c'est dramatique.
Et alors, ce qui est encore plus grave, j'ai lu un livre de Edgar Morin qui s'appelle De guerre en guerre, que vous connaissez certainement. Voilà ce monsieur qui a quand même plus de 100 ans et qui avait écrit, alors je lis pour la paix à la fin, il est étonnant que dans la conjoncture si dangereuse dont le danger s'accroît sans cesse, si peu de voix s'élèvent dans les nations les plus exposées. En premier lieu, européenne en faveur de la paix. Il est surprenant de voir si peu de conscience et si peu de volonté en Europe, notamment à imaginer et à promouvoir une politique de paix. Alors, est-ce que les pacifistes sont devenus inaudibles ? C'était le titre d'une émission de radio.
Oui.
Parce que, bon, on est vraiment minoritaire.
On est en grande partie inaudible, oui. Mais une des raisons de ce fait, c'est que, il y a les bombardements évidemment en Ukraine, mais il y a un bombardement médiatique qui est effroyable. La propagande de guerre, et quand on regarde la propagande de guerre, c'est uniquement évidemment à charge contre les Russes. Et les Ukrainiens ne sont que des victimes. Il faut aller lire dans certains des journaux à l'étranger pour savoir qu'actuellement, au niveau du gouvernement ukrainien, il semble qu'il y ait une crise grave. Les ministres ou un certain nombre de responsables de l'Ukraine ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par M. Zelensky. Donc il faut aller lire du côté d'Al Jazeera ou des Italiens pour avoir un certain nombre de choses. C'est Rudyard Kipling qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité de l'information. Et je pense qu'on est complètement dans ce cas-là. Il y a une désinformation. Alors, on n'a pas le temps de rentrer un peu dans les détails, mais. Bon, par exemple, quand il y a 10 mois, il y avait des tas de photos où vous voyez des corps dans une rue, dans une petite ville à côté de Kiev, etc., en disant ben, les Russes viennent de partir et on a trouvé des cadavres sur les rues, etc. Sauf que entre les photos qu'on a vues sur cette rue et le départ des Russes, il y avait 3 à 4 jours. Et 3 à 4 jours avant, le maire de cette petite ville avait fait une conférence de presse En disant, youpi, ils sont partis, bon débarras, etc. etc. Donc, c'est quoi ces photos qu'on a vues, qui ont été tournées 3-4 jours après? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'était 4 jours après le départ des Russes. Ah, donc, il y a un certain nombre de choses comme ça, dans lesquelles je crois qu'on a tous à avoir une exigence de demande, de clarification et d'explication.
Alors moi, je vais intervenir parce que pour parler de la propagande de guerre et de la nouvelle édition du livre d'Anne Morelli, Les 10 principes élémentaires de propagande de guerre, c'est savoureux. Donc c'est un livre qui a déjà 10 ans, mais elle a fait une nouvelle édition et il y a une exposition d'ailleurs qui circule en France, dans nos différents comités, une exposition super pour montrer toute la propagande de guerre qui a toujours existé, oui, mais qui est en ce moment vraiment accru par le problème de liberté de la presse. Voilà. Alors, bien sûr, le mouvement de la paix condamne la Russie, condamne Poutine pour avoir envahi l'Ukraine. C'est contraire à la charte, notamment à l'article 51. Donc c'est évident. Mais si nous disons aussi qu'il faut connaître toutes les causes, c'est pas pour ça qu'on est non plus pro poutinien, chose qu'on peut glisser facilement. Voilà. Et ça, c'est en lisant la propagande de guerre, parce que on ne dit pas toutes les causes, on peut être traître. Non. Voilà. Donc, il faut analyser toutes les causes, mais il n'empêche qu'il faut aussi accueillir les réfugiés, etc., faire tout le problème humanitaire par rapport, mais à tous les réfugiés. Et nous nous sommes scandalisés, par exemple. Il faut avoir les moyens pour les réfugiés ukrainiens, mais nous n'en avons accueilli que 100 000 sur le sol français, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux millions de réfugiés ukrainiens. Mais la différence de poids, de mesure entre les réfugiés afghans et les réfugiés ukrainiens, je parle des afghans aussi, des africains, etc., ça c'est insupportable pour nous, ce n'est pas moral.
Oui, d'ailleurs, les pays africains l'ont bien remarqué, oui, parce qu'ils n'ont même pas voulu voter.
Ben oui,
oui.
Voilà, donc
ça s'est traduit.
On s'étonne ensuite de ça. Alors, bon.
Je voudrais peut-être dire une chose, parce que je vois que le temps.
Jean Gallas, oui.
Pardon. Je pense qu'il faut absolument stigmatiser le rôle de l'OTAN, qui est. Souvent on dit une pieuvre ça a 8 tentacules, l'OTAN en a 30, et c'est complètement sous la domination des États-Unis, c'est très clair. L'organisation de l'OTAN est calquée sur l'organisation du Pentagone, donc tout est fait pour faciliter.
De Gaulle en était sorti, mais on est revenu.
De Gaulle
non, pas totalement, mais enfin
on est sorti des instances dirigeantes
des
stratégiques
instances dirigeantes, voilà.
Et M. Sarkozy nous y a remis, et d'ailleurs on a appris que la France était revenue dans les instances grâce à une conférence de presse que M. Sarkozy avait tenue aux États-Unis en août, je ne sais plus quelle année, mais pendant son mandat. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de vote de qui que ce soit, est-ce qu'on au moins un débat. Je crois que l'OTAN en France est le débat est interdit. On n'en parle pas.
On ne parle pas de l'armée.
En général, on ne parle pas de l'armée.
On ne parle de rien concernant l'armée.
Mais une chose qui me paraît extrêmement importante à ce que nos auditeurs sachent, c'est que l'Union européenne, par le traité de Lisbonne, 98, a donné à l'OTAN la responsabilité de sa politique de défense. C'est-à-dire que l'Union européenne a sous-traité, entre guillemets, à l'OTAN sa politique de défense. Donc, on est point et main liés. Nos 27 pays sont point et main liés de l'OTAN, donc des États-Unis.
Oui, alors c'est extrêmement grave parce que c'est pas la première fois que les États-Unis nous entraînent dans des guerres que nous ne voulons pas faire. Bon, à part la deuxième guerre du Golfe avec M. Villepin et M. Chirac qui avaient un peu résisté à l'époque, mais
il y a 20 ans.
Il y a 20 ans.
Tout juste.
Mais depuis, alors bon, La loi de programmation militaire 2024-2030 qui est passée à 413 milliards, c'est-à-dire qu'elle a été augmentée ou presque doublée par rapport à certaines. Bon, c'est pas la peine, on n'a pas le temps d'en parler. Par contre...
Plus 40% du budget 40%, militaire.
C'est énorme.
Plus 40%.
C'est énorme.
Et doublement du budget des armes atomiques. Juste deux
chiffres. Alors, ce que je voudrais aussi, c'est qu'on parle quand même de l'appel international pour une mobilisation mondiale en faveur de la paix, qui aura lieu donc le 25 février.
À Paris. Parce que dans d'autres villes, c'est aussi 24 ou 25.
Ah, d'accord.
Ou même 26. Oui. Chaque ville, je crois qu'actuellement, il y a une quarantaine de villes qui ont décidé des rassemblements, beaucoup de rassemblements, des mobilisations sous des formes diverses, le 24 ou le 25, justement, pour l'anniversaire du déclenchement de cette guerre par l'invasion par les Russes de l'Ukraine.
Alors, donc, c'est non à la militarisation des relations internationales, faisant entendre les voies de la paix partout en France et dans le monde. Hein, ça, c'est un peu, ce sera le slogan, si on peut dire.
C'est le slogan général.
Non à toutes les guerres en cours, cessez le feu immédiat, non aux livraisons d'armes aux pays en guerre, ouverture de négociations sous l'égide de l'ONU, non à la militarisation des relations internationales.
Voilà, synthèse de nos exigences.
Donc, il faudra... Alors, j'ai vu aussi que vous annonciez une visioconférence qui va être organisée par le Bureau international de la paix, c'est ça ?
Oui.
Il y a une date qui a été fixée, là ?
Non, c'est en juin.
Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont prévues, donc on ne sait pas... Enfin, il y a un sens d'imprécision sur les dates, parce que c'est international...
Ah oui.
Donc le collectif international dont nous faisons parler, qui s'appelle en français No to NATO, No to War, non à l'OTAN, non à la guerre, le mouvement coordonne un collectif français, alors non à l'OTAN, non à la guerre, qui fait partie de No to NATO, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont en discussion, et notamment parce qu'il va y avoir au mois de juin un sommet de l'OTAN dans les pays baltes, No to NATO avec nous, le collectif international organise avec l'ensemble de ses membres des contre-sommets. Et donc là, actuellement, on est en train de travailler à la manière dont on va pouvoir organiser un contre-sommet. Il y aura sans doute une activité dans les pays baltes, mais c'est un peu loin, on ne pourra pas être beaucoup. Mais donc, il y aura certainement, en tout cas, en France, en Belgique, en Allemagne, un certain nombre d'initiatives, de manifestations, de rassemblements contre l'OTAN.
Alors, il faut qu'on parle rapidement du service national universel, parce que vous faites partie du collectif, on est à peu près une quarantaine dans ce collectif. Bon, on s'est rendu compte quand même que Macron, finalement, avait un peu peur de la jeunesse. C'est ce qu'on disait, nous, dans notre dernier communiqué, parce qu'il avait annoncé très fièrement que tout ça allait se passer rapidement. Et puis, il y a quand même des manifestations intéressantes, et pour nous, surtout, contre la réforme des retraites, qui mobilise aujourd'hui tous les syndicats, toutes les partis de gauche, et pour essayer d'arrêter et de faire reculer. Du coup, on a un peu oublié le SNU, le Service National Universel, et nous avons maintenant... on attend les décisions de Macron, qui est en train d'hésiter entre la généralisation du SNU ou une partie obligatoire sur les temps scolaires. Enfin bon, tout ça est en discussion. Et justement, il y a une autre association qui s'appelle l'Association pour une alternative au service national universel, qui a été créée un peu parallèlement avec la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, la FCPE, etc. Et puis, justement, Madame Sarah El-Haïry est en train de recevoir toutes ces personnes, alors qu'elle avait refusé de le faire pour, par exemple, la Libre Pensée qui avait demandé à être reçue. Et là, elle est en train de les recevoir petit à petit. Alors, apparemment, elle essaie de voir un peu quels sont les reproches qu'on peut faire à ce service national universel pour l'améliorer. Bon, nous, notre opposition est claire, abrogation du service national universel. Après, on verra si on le remplace par autre chose. Mais enfin, ce n'est pas notre problème.
C'est ça, ouais.
Et vous, pour, au mouvement de la paix?
Nous aussi, alors là.
Ben, nous, notre position, elle est pratiquement la même. C'est-à-dire que, qu'il y ait un moment de service civique, que des jeunes puissent participer à des campagnes d'aide à des personnes âgées, à des handicapés, à des... Ce qui existe en partie. Mais dans lequel on va pouvoir parler de la culture de la paix, nous, évidemment, on serait d'accord. Mais un truc militariste comme ça, parce que l'armée a besoin actuellement de recruter, non. Voilà, on est 100% d'accord avec l'Union pacifiste.
Alors, il paraît que dans les projets, justement, ce qui a été reproché, c'est ce côté militariste. Alors, il paraît que ce serait envisagé de supprimer peut-être la levée du drapeau, mais par contre, l'uniforme, ça, ça intéresse beaucoup Madame Macron, et du coup, on va certainement garder l'uniforme dans les projets.
Hein. Oui. Non, moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on prend des jeunes de 16 ans, où justement il y a un formatage, parce que là, c'est là qu'ils sont le plus perméables aux idées. Et que l'esprit de ce projet, c'est vraiment militaire, l'obéissance, sans la critique. Et pour des jeunes de 16 ans, c'est ça qui me trouble le plus. Parce que s'il y avait un service, parce qu'ils disent brassage des classes sociales, des jeunes, etc. Oui, très bien, mais pas avec cet esprit de formatage de jeunes qui sont extrêmement sensibles à ce moment-là.
Alors, nous sommes d'accord, nous allons en reparler. Là, je voudrais quand même faire une annonce, c'est que le film de Pedro Fidalgo va bientôt passer au... Alors, je vais laisser peut-être Pedro Fidalgo, s'il veut bien nous annoncer, le 21 février, à 20h, je crois, au cinéma des Halles, le centre des Halles. Il y aura donc la projection du film...
Au Forum des Images, à 20h30, mardi prochain.
Oui, je crois qu'il l'annonce. Ah, alors, bon, et il y aura justement la présence... à la fois de Dominique Grange et en même temps de Tardy, et bien sûr du réalisateur qui pourra répondre à des questions après qu'on ait vu ce film qui est très intéressant, que je vous conseille, parce qu'il parle non seulement de l'engagement de Dominique Grange en 1968, mais comme notre ami Pedro Fidalgo a beaucoup aussi tourné dans la période actuelle, ça fait des références notamment avec les violences policières qui ont été développées pendant les Gilets jaunes et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y a eu encore devant le lycée Racine des jeunes gens qui se sont fait, après avoir bloqué leur lycée, qui se sont fait gazer et matraquer. Alors, bon, on arrive à la fin de notre émission. Donc je vais bien sûr remercier Edith Boulanger et Yves-Jean Gallas du Mouvement de la Paix. Je pense qu'on se reverra dans d'autres émissions. Il y aura d'autres sujets certainement abordés. Et puis, pour la paix, on n'y est pas encore. Donc, on va certainement se revoir.
Je voudrais rappeler ce qui a été dit tout à l'heure sur la mobilisation que le mouvement engage avec le collectif autour du Mouvement de la Paix qui s'appelle En Marche pour la Paix, donc qui regroupe à peu près 200 organisations, syndicats, partis politiques. Donc tout le monde appelle à des initiatives à prendre, soit le 24, le 25 ou le 26, donc en fin de semaine prochaine. Donc renseignez-vous dans vos villes. Et à Paris, ce sera place Edmond Michelet à côté de Beaubourg, le 25 à 15h. Donc on souhaite qu'on puisse se retrouver tous là-bas et qu'on puisse montrer notre inquiétude sur la militarisation générale et notamment sur la dérive à laquelle on est en train d'assister en Ukraine. C'est effroyable.
Alors, eh bien, écoutez, merci pour cette annonce. J'espère que tout le monde l'a bien noté et que on va se retrouver donc là-bas. Et puis maintenant, on va écouter peut-être pour terminer la chanson d'Antoine. D'Antoine, c'est pas une chanson récente, hein, qui s'appelle Pourquoi ces canons. Et on va terminer là-dessus.
ses canons au bruit étonnant. Pourquoi, pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant? Pourquoi, pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine? Faisons-nous la guerre aux gens, ça fait marcher les usines. Pourquoi, pourquoi ces usines qui n'ont rien qui vaille? Pourquoi, pourquoi ces usines, ça donne aux gens du travail? Pourquoi, pourquoi ce travail dur et fatigant? Pourquoi, pourquoi ce travail, c'est pour gagner de l'argent? Pourquoi, pourquoi cet argent est-il donc si bon? Pourquoi, pourquoi cet argent pour acheter des canons? Ces canons pour faire la guerre, mon enfant.
Te encontré por casualidad, aquí o allí, ¿qué más da? Seguro que lo recuerdas. Apenas sin conocernos nos amamos. E incluso si no fue verdad, mejor pensar que fue así. Yo te di cuanto tenía. Te di el cantar soñando el mundo que yo no viva. Y tú eras feliz en mi bohemia. Con 20 años creías que se puede vivir del aire. Ahora ya no piensas lo mismo. Ese apretado fin de mes, que desde que estamos juntos lo vivimos 7 días por semana. Y no tener ni para el